La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous pour ce culte à l'Oratoire du Louvre, que vous soyez ici dans ce temple ou au loin derrière votre écran à nous regarder. Vous êtes toutes et tous en communion ici et maintenant pour ce culte dominical. Nous avons ce matin quelques empêchements autour de l'oratoire. J'espère que tout s'est bien passé et la preuve, vous êtes arrivés ce matin ici. Donc nous sommes très heureux de cela et nous encourageons ceux qui sont sur des bicyclettes ce matin et qui ont certainement d'autres problèmes à régler que les nôtres. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Éternel, bénis ce temps que nous partageons ce matin. Mets-le à part dans nos vies, non pas pour qu'il soit sacré et intouchable, mais pour qu'il irradie sur toutes les questions profanes de nos vies, afin que ta parole sorte du champ sacré et devienne notre langue, qu'elle devienne notre grammaire pour vivre, que nous puissions ensemble partager ton enseignement à travers la figure de Jésus, à travers le salut du Christ. Donne-nous, Éternel, de pouvoir vivre de ta parole. Amen. Je vous invite à chanter ensemble, et c'est Alexandre Korovitch qui est avec nous ce matin. Je vous invite à chanter. Prions avec le pasteur Wagner pour louer Dieu. Dieu se fait homme. Je ne peux te penser qu'avec des moyens humains, lors même que je ne te verrai pas en esprit, sous une forme mortelle et semblable à celle de mes frères. Et si je veux t'approcher de moi, et si tu veux, pardon, t'approcher de moi, ne faut-il pas que tu descendes au sentier de la terre ? Pour me parler, ne dois-tu pas employer les termes de ma langue maternelle ? Autrement, qui te comprendrait ? Puisque l'homme est un muet et un sourd pour son propre semblable s'il n'en saisit pas le langage. C'est pour cela que tu t'es fait homme et que tu as marché parmi nous sous les traits du Fils de l'homme. En somme, depuis que tu nous cherches, tu emploies les mêmes moyens, tu viens à nous. Tu es venu vers nous par la création matérielle, les splendeurs et la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la vie familiale, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères aînés. Tu as marché, lutter, souffert et chanter parmi nous. À travers nos jours éphémères a transparu ton sourire qui demeure, et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage où fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs tombés pour les causes justes, brillent les rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse, et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Dieu qui te fait homme pour être plus près de nous, comme dans les épis mûrs sous ses caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Nous chantons notre louange avec le psaume 138 et une pensée particulière pour Agnès qui est en vacances actuellement et dont c'est sans doute le psaume préféré. Le Seigneur nous redit sa grâce, mais il nous dit comment vivre de cette grâce à travers le prophète Ésaïe. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement fondée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas à se hâter de fuir devant Dieu. nous nous présentons devant le Seigneur avec cette prière d'André Gide. Seigneur, ce n'est pas parce que l'on m'a dit que vous étiez le Fils de Dieu que j'écoute votre parole, mais votre parole est belle au-dessus de toute parole humaine et c'est à cela que je reconnais que vous êtes le Fils de Dieu. Par quelle absurde modestie, par quelle humilité, quelle honte ai-je jusqu'aujourd'hui différé d'écrire ce qui depuis tant d'années s'impatiente en moi ? J'attendais toujours plus de sagesse, de lecture, de connaissance, comme si la sagesse des hommes n'était pas folie devant Dieu. Seigneur, je viens à vous comme un enfant, comme l'enfant que vous voulez que je devienne, comme l'enfant que devient celui qui s'abandonne à vous. Je résigne tout ce qui faisait mon orgueil et qui, près de vous, ferait ma honte. J'écoute et vous soumets mon cœur. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il ne cherche pas à faire que nous ne soyons pas des hommes et des femmes avec tous leurs défauts, tous leurs penchants, toutes leurs difficultés de vie, tous leurs doutes. Il nous aime comme nous sommes et je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Confessons notre foi avec ces mots offerts par la pasteur de la chapelle royale de Bruxelles. Je crois au chemin, je crois que nous pouvons nous lever contre la contrainte, contre la souffrance, ressusciter dans la plénitude de la vie. Je crois que nous pouvons partager le pain et la diversité de nos rêves et que la terre se renouvelle dans une vie commune entre hommes et femmes. Je crois que nous sommes guéris en nous confiant mutuellement nos douleurs, pleins de vigilance et de tendresse pour le désir des autres. Je crois que le ciel s'ouvre toujours à nouveau et que sa force indomptable s'accroît dans chaque fleur et dans chaque arbre comme dans mon corps. Je crois que l'alliance de Dieu avec tout ce qui vit est amour et grâce. Par elle, la vie est chuchotée, espérée, éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. En ce temps estival où il m'est permis de prêcher plusieurs fois de suite, j'ai imaginé qu'il était possible de faire une série de prédications sur la question du libéralisme dont on parle beaucoup mais qui est très difficile à définir parce qu'il est d'abord pluriel et qu'il nous pousse à réfléchir sans cesse à nos propres conceptions doctrinales dans notre religion. Et la foi, évidemment, est questionnée sans cesse sur les thèmes importants du christianisme. Ce matin, pour parler du premier volet, qui n'est pas des moindres, Jésus-Christ, rien que cela, j'ai choisi de prendre un petit texte dans l'évangile de Marc, où l'identité du Christ, vous le verrez, est déclinée de plusieurs façons, et il m'a semblé intéressant de prendre ce texte. C'est donc dans Marc 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il les enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? » Un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et aussitôt, la renommée de Jésus se répandit partout dans toute la région de la Galilée. Voilà, je vous invite à chanter ensemble le cantique 338 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2. Je vous invite à la prière. Dans les paroles de la Bible, que nous soyons capables de reconnaître ce qui pour nous fait le centre de notre vie, ce qui pour nous a une signification, ce qui change nos existences, et que nous soyons capables d'être critiques envers une écriture humaine pour y trouver la foi de ceux qui nous ont précédés et entrer en communion avec eux sur ce qui nous semble le plus essentiel pour nous. Amen. Au départ, le Christ est bien plus qu'une autorité suprême dans le christianisme, il est le christianisme lui-même. On doit cette déclaration très christocentrique au grand théologien Auguste Sabatier dans son livre « Les religions d'autorité et la religion de l'esprit ». Si le Christ ne tient pas la même place dans la foi de chacun, que dans celle de ce grand théologien de la théologie libérale, il est évident que le christianisme repose tout entier sur la figure de Jésus-Christ. Mais déjà parler de figure de Jésus-Christ indique qu'il s'agit surtout, toujours et seulement, de se le figurer sans réussir à le définir complètement. Que veut dire croire en Jésus-Christ ? Y a-t-il une façon spécifique de croire en Jésus-Christ dans une conception libérale de la foi chrétienne? Pour esquisser cette enquête, j'ai choisi de partager ce passage biblique de l'évangile de Marc qui recèle plusieurs des fonctions diverses que l'on prête à Jésus. Jésus est d'abord maître, puisqu'il entre dans Capharnaüm avec ses disciples. Il enseigne dans la synagogue et pas seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui sont présents. Et il est donc enseignant ou prédicateur. Il use donc d'abord de la raison. Quand il paraît dans ce lieu, le jour du sabbat, un homme atteint de ce que le texte appelle un esprit impur, l'appelle Jésus de Nazareth et proclame un peu plus loin que Jésus est le saint envoyé par Dieu. Comme Jésus réussit à débarrasser l'homme qui lui parle de cet esprit impur, on peut aussi dire qu'il est exorciste dans ce texte. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent, écrit Marc. Dès le début de l'évangile, qui se veut être la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus de Nazareth est le saint envoyé par Dieu qui enseigne avec autorité parce qu'il est capable de faire reculer le mal. Cet épisode sonne comme une épiphanie, comme une révélation divine. Mais où est la part de divin et celle de l'humain dans cette attitude de Jésus? Qu'est-ce qui nous permet de définir de quelle nature est Jésus quand il pratique cet exorcisme ? Les historiens de la Bible s'accordent pour dire que Jésus n'était pas le seul à son époque à avoir la réputation d'exorciste ou de guérisseur, et les thaumaturges, comme on les appelle, étaient nombreux à faire forte impression sur une population en mal de compétences médicales pour venir à bout de maladies encore méconnues. On pourra nuancer cette banalisation en disant que Jésus de Nazareth, lui, agit au nom de Dieu et que c'est en cela qu'il est spécial dans le paysage de son époque. Mais précisément dans cet exemple d'exorcisme, Jésus ne se réclame d'aucune autorité extérieure. Il demande seulement à l'esprit impur qui le révèle comme saint de Dieu de sortir de cet homme. C'est une étrange critique interne de la proclamation chrétienne que nous trouvons dans cet épisode. La révélation de l'autorité de Jésus en tant que saint de Dieu n'est pas encouragée. Elle est même réprouvée par Jésus lui-même, qui ne veut pas qu'on parle de lui ainsi. La compréhension superstitieuse du mal est déplacée vers une autre compréhension, une compréhension existentielle. Est-ce parce que ce n'est pas encore l'heure de dire qui il est ? Est-ce pour entretenir l'idée selon laquelle il y aurait un secret messianique indissociable de la révélation ? Est-ce au contraire parce qu'il a été révélé de la sorte qu'il manifeste sa puissance et fait sortir l'esprit impur parce qu'il est le saint de Dieu ? En tout cas, Jésus va chasser un esprit impur qui dit de lui qu'il est le saint de Dieu. L'exorcisme ici ne consiste pas à expurger un quelconque pouvoir maléfique qui habiterait comme un intrus la vie de cet homme, mais pour exorciser le mal dont souffre cet homme, il faut le libérer de la peur qu'il a d'être libre. L'esprit impur demande en effet « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Le mal qui est dénoncé ici est le mal de toute doctrine qui transforme la promesse de Dieu en oppression. Le mal qui parle ici est celui qui présuppose que si un homme est envoyé de Dieu, il va évidemment utiliser sa force divine pour détruire. C'est de cette peur du Dieu qui punit et qui détruit qu'il nous faut sortir. Pourquoi en matière de mal inexplicable, comme cette maladie qui devait affliger cet homme que tous croyaient posséder, faudrait-il chercher un coupable ? Le divin que Jésus apporte avec lui ne serait-il que répression ? Jésus ne vient pas en grand inquisiteur. Si Jésus est enseignant, cela ne veut pas dire qu'il est juge qui sait et condamne. Si Jésus est le saint envoyé par Dieu, cela ne veut pas dire non plus qu'il exerce sa puissance pour détruire tout ce qui va mal. L'autorité de Jésus ne réside donc pas dans son savoir de Dieu plus élevé que celui des scribes qui sont ce jour-là dans la synagogue, ni dans la force surnaturelle d'une sainteté octroyée à lui seul par Dieu, non. Son autorité lui vient surtout de la cohérence entre sa foi, son enseignement et son action. On est loin du Jésus divin décrété par le Concile de Nicée en 325, et pourtant ce désir de faire de Jésus un second Dieu ou un nouveau Dieu reste une tentation très présente dans la lecture des textes et dans les pratiques rituelles de nombre d'églises chrétiennes. Dans la perspective d'une spiritualité israélite, la question de la divinité de Jésus ne se pose pas du tout comme dans la perspective d'une métaphysique grecque. En effet, pour Jésus et ses coreligionnaires juifs, il n'y a qu'un Dieu, et les pouvoirs ou autorités prêtées aux prophètes, aux thaumaturges ou autres serviteurs de la parole de Dieu ne faisaient pas d'eux des demi-dieux ni des nouveaux dieux. Ils étaient simplement inspirés, mais pas divins. Mais alors la résurrection de Jésus et son ascension, tous ces phénomènes extraordinaires qu'on prête à Jésus, sont-elles reléguées au rang de détails dans la révélation de Jésus-Christ ? Faut-il s'en détacher ou les prendre au sérieux ? Est-ce qu'il n'a pas une nature divine en plus de sa nature humaine, étant le ressuscité ? Cantonner Jésus-Christ à l'existence du Jésus historique seulement est une autre tentation, et ce serait, à mon avis, une erreur. Non pas qu'il y ait eu un homme qui s'appelait Jésus et qui soit un homme historique, mais Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Ce n'est pas là une erreur de nature, car il ne s'agit pas de savoir cela, car Jésus n'a que la nature qu'on veut bien lui prêter dans la foi ou dans les conciles, ce qui n'est pas toujours la même chose. Mais c'est une erreur théologique, historique, intellectuelle et je dirais même mystique. Certes, dans la foi d'Israël, le Christ est celui qui a reçu l'onction de Dieu et c'est un être humain qui a la fonction soit de prêtre, de roi, de prophète, comme le roi David qui a eu tour à tour ses fonctions. Il y a là une notion politique même d'accomplissement qui fait du Christ celui qu'on attendait pour sauver le peuple de l'oppression romaine et qui va devenir central dans la foi d'Israël justement à l'époque où Jésus de Nazareth paraît et où le temple est mis à mal. Accoler le terme de Jésus à celui de Christ dans le christianisme revient à faire de lui le Messie tant attendu et transformer sa mort et sa résurrection en événement eschatologique, c'est-à-dire en accomplissement de la promesse de Dieu, alors que dans le judaïsme, elle est toujours à accomplir. Les évangiles et avant eux les lettres de Paul font de Jésus de Nazareth un Christ en le projetant dans le temps de l'après-mort et donc de l'anticipation de la fin des temps et de l'accomplissement du règne de Dieu. Mais depuis les évangiles et les lettres de Paul, la fin des temps n'a pas eu lieu et il nous faut donc relire ces textes à d'autres frais. Alors, à quoi croyons-nous quand nous confessons Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, le bon berger, toutes sortes d'appellations que l'on trouve ainsi dans les textes. Un libéral rationaliste dirait que Jésus n'est qu'un homme qui a fait preuve d'une éthique de vie remarquable et qui est un exemple pour notre vie par sa foi. Un libéral pluraliste, mais pas forcément complètement rationaliste, dirait que chacune de ces figures pour dire Jésus est respectable et que c'est la difficulté de dire l'ineffable de la foi qui nous oblige à une pluralité de points de vue sur Jésus, points de vue qui jouent sans cesse comme dans un kaléidoscope. La vérité sur notre foi en Jésus se trouve quelque part au milieu de tous ces aspects différents. Un libéral mystique dirait qu'il y a du divin dans l'humanité de Jésus, l'homme historique, et de l'humain dans le divin du Christ, ce sauveur qui est tant attendu, et qu'il n'est ni aisé ni souhaitable de vouloir à tout prix comprendre ou couper le divin de l'humain, quand la foi tend justement à faire se rencontrer les deux dans une union ineffable. Jésus-Christ est alors la figure de la rencontre mystique de l'homme avec Dieu, et personne ne devrait pouvoir juger de la légitimité d'une telle conception que celui-là même qui expérimente cette union dans sa foi. Cela ne peut donc pas se juger de l'extérieur. Nous voyons à ce point de l'enquête que confesser Jésus-Christ ne va pas de soi et que si tout à coup le terme Jésus-Christ est devenu comme un terme générique dont le contenu devient très flou, il est important de se reposer sans cesse la question de notre foi en lui. Et même si la théologie libérale prend soin de replacer Jésus-Christ dans une perspective historique grâce à une démarche historico-critique dans la lecture des textes bibliques, elle n'épuise pas ce qui joue dans la foi entre Jésus et le croyant. Jésus s'est placé de lui-même au centre de ma vie et de ma pensée, écrit Auguste Sabatier dans sa lettre de candidature à la chaire strasbourgeoise de dogme réformé. Aucune recherche historico-critique ne peut rendre compte de cette expérience existentielle si profonde. Alors faut-il renoncer à énoncer quoi que ce soit sur cette relation particulière à ce personnage si particulier dans l'histoire des idées ? Ou pouvons-nous espérer, tout en restant critiques sur ce que nous croyons savoir du divin et de l'humain, énoncer cette expérience de la foi en Jésus-Christ ? Auguste Sabatier relève le défi sans renoncer à la raison et il propose de recourir au symbolisme pour exprimer cette foi, comme le faisait Jésus lui-même quand il parlait en parabole, pour parler du royaume des cieux, sans pouvoir jamais le définir une fois pour toutes pour chacun, puisque c'est une rencontre individuelle. C'est une façon de dire de façon pluraliste et dynamique la vérité de cette foi si difficile à dire. Auguste Sabatier allie à ce symbolisme un fidéisme, sans lequel nos doctrines en matière de foi sont toujours indicatives et approximatives, est lié à une histoire et à une culture donnée. Penser la foi et essayer d'en rendre compte est important, mais pour Auguste Sabatier, les doctrines qu'on essaie d'élaborer, qui sont importantes pour avoir un langage pour parler de foi, ne peuvent jamais contraindre la liberté de chaque disciple de Jésus-Christ, dit-il. Pour Sabatier, la relation au Christ est immédiate et libre pour chacun dans son intimité. Aucune instance doctrinale ne peut réglementer cette relation et celui ou celle qui essaie de le faire appartiennent à ce qu'il appelle les religions d'autorité et qui vous disent comment vous devez croire. La religion de l'esprit que Sabatier prône implique de n'avoir aucun intermédiaire dans cette relation à la personne emblématique du christianisme qu'est Jésus. Ainsi, chacun trouvera la figure qui correspond à son existence. L'autocritique de notre foi en Jésus ne peut se faire qu'en toute liberté de conscience, même si pour ce faire, nous utilisons tous les outils rationnels que nous avons à notre disposition. Comme Jésus n'est pas venu détruire l'homme qui est atteint de ce mal qui l'afflige, mais distinguer entre lui et sa maladie, et le délivrer ainsi du mal, l'esprit critique et la raison ne détruisent pas la foi et sa compréhension existentielle, mais la distinguent de toute peur et de toute superstition et de toute doctrine qui viendrait de l'extérieur. Ce qui fait de l'esprit qui secoue l'homme de la synagogue un esprit impur dans le récit de Marc, c'est la peur de ne pas correspondre aux normes de la religion comprise par les scribes. Cet homme-là est rejeté parce qu'il n'est pas comme les autres et on ne comprend pas ce qu'il a. L'homme divisé, l'homme en crise, n'est pas coupable de l'être. Il est l'homme malheureux qui attend un secours. La seule autorité qui puisse être efficace en pareil cas, c'est celle d'un homme qui, comme Jésus, croit en un Dieu qui aime l'homme et veut son bien sincèrement, et qui, en conséquence, aime l'homme et le délivre de sa peur. Jésus n'a rien fait d'autre que faire taire la peur et séparer le mal de l'homme, pour que jamais l'identité de l'homme ne soit confondue avec le mal qui l'afflige. Voilà la relation de l'esprit, la religion que prône Auguste Sabatier, cette religion de l'esprit, celle qui nous donne les bénéfices de l'Évangile et de la liberté, sans condamner ou contraindre. Alors Jésus devient vraiment, existentiellement, le Christ dans l'existence de chacun, et le royaume de Dieu advient enfin. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 72, les strophes 1, 3 et 4, dans le psautier. Je vous invite à vous asseoir après ce psaume qui n'est qu'une extension de la prédication. Voilà, et j'invite Aurore à venir nous donner quelques annonces.
Bonjour à tous. C'était éteint. Au nom du Conseil presbytéral, merci vraiment d'être là, parce que c'est vrai que le Tour de France masculin et cet après-midi féminin ne facilitent pas la venue à l'Oratoire du Louvre. Mais l'avantage, c'est que entre les deux, vous avez un verre de l'amitié à prendre avec nous, qui vous permettra aussi de voir le Tour de France passer. Donc,
c'est la séquence ravitaillement.
Voilà, c'est la séquence ravitaillement que nous allons faire dans le jardin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons un arrière à l'Oratoire du Louvre qui est sur la rue de Rivoli, donc plutôt bien placé. Nous prendrons le verre dehors, ce qui en termes de Covid est quand même mieux et plus sympathique. Et nous pourrons sortir côté rue de Rivoli. Donc tout à l'heure, vous partez dans ce sens-là. Alors Gérard me dit, non, c'est pas côté rue de Rivoli qu'on va sortir. Je simplifie, Gérard. Nous sortirons côté rue de au coin de la rue de Rivoli et de la rue de l'Oratoire.
Voilà.
Mais le principal, c'est que vous passez par là-bas pour sortir tout à l'heure. Vous pourrez comme ça saluer la pasteur Béatrice Cléromazir et puis nous pourrons discuter et prendre un verre ensemble. Dimanche prochain, tant que j'y pense, nous partagerons la scène. Donc ici, pas dans le jardin, pour le coup. C'est ça?
Non, tu ne me feras pas dire que c'est la séquence ravitaillement. Non.
Je te remercie.
J'écoute tout ce que tu dis.
Également deux annonces importantes. Vous savez que cette année, c'est les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Nous avons commencé à commémorer cette date en mai dernier. Et vous avez dans la feuille rose que nous avons déjà fait avec l'Université de la Sorbonne un colloque universitaire sur les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Deux événements importants ici à l'Oratoire. Le 28 août, nous aurons le culte dit de la Saint-Barthélemy avec le traditionnel dépôt de gerbes devant la statue de Coligny, donc dans le jardin que vous allez voir tout à l'heure. Également, nous aurons un historien, Olivier Millet, qui est le même qui sera à l'Assemblée du désert 15 jours plus tard, une semaine plus tard, qui viendra nous parler de la période, donc juste à l'issue du culte. Et l'oratoire sera hors les murs la semaine d'après à l'Assemblée du désert. C'est toi, Béatrice, qui y sera.
Voilà, je serai là pour accueillir quiconque veut se regrouper entre amis de l'oratoire, mais évidemment, c'est un lieu aussi où on rencontre beaucoup d'amis de toute la France et d'Europe. Et donc, il faut vraiment ne pas hésiter à en profiter pour rencontrer tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, on y sera pour une visite guidée du musée du Scribe à Saint-Christol et puis une visite guidée du musée du désert, évidemment.
Et le dimanche à l'Assemblée du désert.
Et à l'Assemblée du désert le dimanche.
Avec notamment le baptême d'un de nos enfants paroissiens.
Et le baptême d'un petit enfant de notre communauté qui sera baptisé là-bas, le petit Tristan.
Voilà. Donc je résume. Vers de l'amitié en sortant. La semaine prochaine, nous partageons la scène. Le mois d'août, on vous racontera tout la semaine prochaine. Mais fin août, 28 août et le 3 et 4 septembre, l'Oratoire du Louvre, ici pour le culte de la Saint-Barthélemy et à l'Assemblée du désert. Le week-end d'après. C'est le moment de l'offrande. Le don, il y a deux types de dons, puisque beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne sont pas forcément de l'Oratoire du Louvre. Donc vous avez le don joyeux,
qui est le don pas joyeux, non, tu rigoles.
Voilà, pour l'Église et la partie cultuelle de l'Église. Vous avez aussi le don lumineux, qui, je vois beaucoup de gens sourire, mais le don lumineux, ça consiste à nettoyer les vitraux et les restaurer, vous voyez, ils sont tout cassés. Et donc ça, c'est aussi important. Donc si vous voulez nous aider sur la restauration de ces vitraux et de ce bâtiment classé, c'est un autre compte en banque. Mais venez nous voir, nous vous expliquerons, parce que vraiment, c'est lumineux. Merci beaucoup, bon dimanche. Et nous prenons la carte bleue.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te remettons tous ceux dans notre monde qui cherchent à rencontrer un homme comme Jésus-Christ, qui cherchent sur leur chemin le salut et l'aide de ceux qui croient fermement que l'humanité peut être relevée. Nous te remettons tous ceux qui espèrent et qui cherchent encore une parole qui restaure leur vie. Donne-nous d'être porteurs de cette parole, de la porter nous-mêmes dans nos vies pour qu'elle irradie tout autour et que chacun puisse être au bénéfice de notre témoignage. Nous te remettons, Seigneur, les familles en deuil de notre communauté cette semaine. Nous voulons leur assurer de notre amitié. Nous te demandons la consolation, la paix et la disponibilité pour être toujours auprès de ceux qui pleurent. Donne-nous, Seigneur, cette attention particulière à la peine de nos contemporains et permets que nous soyons solidaires. Garde-nous de l'indifférence. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se prennent pour Jésus-Christ et qui en font un étendard pour affirmer des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Permets que toujours la raison et l'esprit critique viennent au secours de la tentation de pouvoir. Permets que nous soyons toujours attentifs à ne pas chercher l'emprise sur ceux qui cherchent un sauveur. Garde-nous, Seigneur, de prendre une place qui n'est pas la nôtre et garde ceux qui l'usurpent de cette folie. Et ensemble, nous te disons avec confiance la prière que Jésus a apprise à ses disciples et qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons partagé ce moment. Nous avons peut-être cherché chacun dans nos cœurs quelle était la figure du Christ à laquelle nous étions unis. Que cette figure nous accompagne partout et qu'elle nous permette d'annoncer sa bonne nouvelle pour ce monde. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.